C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, l'émission de recommandation culturelle de Radio Campus Paris. Une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité avec un zoom sur ce qui se fait pour chacun en Île-de-France. Ai-je le droit de vous souhaiter la bonne année ? Je ne vous ai pas encore parlé en 2026, mais j'ai quand même envie de vous souhaiter une excellente année culturelle. Et je crois qu'elle est bien partie. Un matin, je cherchais un sujet à traiter, j'ai voulu aller au Grand Palais, mais vous savez, c'était un matin sans motivation. Vous vous levez, vous demandez pourquoi vous vous êtes levé. Il fait froid, gris, le soleil peine à se montrer et vous montez dans le métro. C'est dimanche, mieux vaut faire quelque chose de ma journée plutôt que de me rendormir dans mon canapé-lit. Je traîne en allant prendre un café. J'ai entendu que pour bien se réveiller, mieux vaut manger des protéines au petit déjeuner et notamment des protéines végétales. Après du beurre de cacahuète, de la purée de sésame et de la purée de noisette, le tout se tartine et un bon café, je me dis que la motivation devrait arriver. Eh ben non, en fait. Bon, j'y vais quand même. Et en arrivant au Grand Palais, je vais sur le site prendre mon ticket expo complète pour la journée entière. Oh là là. Bon, tout va bien. Je ne suis pas venu jusque là pour rien. J'avais une autre expo en vue. Ça dit quoi ? Billet dispo. Bah en fait non. Non, pas envie. Donc tu sais quoi, je rentre. Donc voilà, j'en avais juste marre. Ma question pour vous, pouvons-nous encore improviser pour aller voir des œuvres culturelles ? Je crois faire partie de ces gens qui agissent par impulsion, souvent. Je dois avouer que j'ai quand même besoin d'ordre dans ma vie, sinon je ne pourrais pas gérer cette émission. Mais comment faisons-nous quand nous avons envie de culture au pied levé ? Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui. À défaut d'avoir des réponses pour vous, nous avons des propositions et vous allez voir, je crois que vous allez apprécier. Chères auditrices, chers auditeurs, déjà fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit, vous écoutez C'est dans l'art, l'émission de recommandation culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris et c'est sur Radio Campus Paris. Je vous retrace l'expo Quartier de Demain à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Diane a vu la mer à la Maïf Social Club et nous en parle. Deux galeries, une même entrée. Hortense a parcouru ses galeries du Grand Palais et nous dit ce qu'elle garde des œuvres de Claire Tabouret et Eva Jospin. Le festival de BD d'Angoulême a été annulé et Vladimir nous offre son regard à ce sujet. Hugo a joué à Mio Memories in Orbit et nous donne ses impressions. Violette nous fait le tour de l'actu culturel du Grand Paris. C'est dans l'art en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement sur radiocampusparis.org, sur le canal Campus en DAB+, et sur le 93.9 FM. Amis curieuses et curieux, top chrono pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Pour m'accompagner ce soir, autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Diane.
Bonsoir.
Hortense.
Coucou.
Hugo.
Bonsoir.
Violette.
Hello.
Vladimir.
Salut.
Sur les Star Team Blog, pour leur présenter ce qui fait leur actu culturel à la technique dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Eléa et je suis Fabrice. Ça va tout le monde ?
Bah ça va bien, ouais.
Bah top.
Comment ça va depuis la dernière fois ? Une première pour Vladimir.
Ouais, c'est une première. Ça fait trop plaisir d'être ici pour la première fois.
Hortense ?
Bah ça fait plaisir de revenir. Moi c'est ma deuxième fois, mais toujours heureuse d'être autour de cette table.
Violette ?
Pareil, toujours heureuse d'être là.
Trop cool. Hugo ?
Toujours content d'être là, même si j'ai pas de temps en ce moment.
tu prêches un convaincu.
Non, mais de toute façon, c'est la faute du capitalisme.
Oui,
c'est
une bonne idée.
La faute à Macron.
Dans la France, à Macron, on n'a plus le temps.
Voilà, c'est ça.
Une heure dédiée à l'art qui commence dès à présent.
Sur Radio Campus Paris.
Violette, ce mois-ci, nous faisons le tour de l'actu culturelle avec toi, d'abord en architecture à Paris. Dans le 14e, un ancien hôpital devient un cas d'école en architecture.
Jusqu'à début mars, à l'ancien hôpital La Rochefoucauld, scrutez les parties communes de nos lieux de vie habituels. Des ascenseurs, des couloirs ou encore des locaux vélos, chaque coin de nos parties communes sont exposés pour voir comment ils nous impactent d'un point de vue économique, social et bien sûr architectural.
En littérature et en bande dessinée, des nouveautés en roman graphique.
Oui, avec L'autoroute du soleil, sortie mercredi 21 janvier dernier, nouvelle édition, 30 ans après sa première édition. Une histoire entre Nancy et Marseille, l'histoire d'un road trip sous fond d'adultère ou de discrimination. Plus léger, quoique, avec la sortie de la dialectique du Calbutsal aux éditions Marabule par Audrey Lenné et Ovidie, sortie début janvier, adaptée du podcast Dispo sur Binge Audio, la dialectique du Calbutsal. Ce roman graphique interroge les relations intimes après MeToo. Et enfin, toujours aux éditions Marabule, je vous conseille Souria Bonali, Le feu sur la glace. Souria Bonali, cette patineuse artistique qui ose l'impossible pour casser les codes du patinage et devenir une sportive de légende. Souria Bonali, plusieurs fois championne d'Europe et vice-championne du monde. Un roman graphique déjà inspirant.
En sculpture, le gentil garçon pose ses toupies à la Cité des sciences et de l'industrie.
Le Lyonnais scientifique, mais aussi sculpteur revendiqué, utilise différents domaines de l'art appliqué pour ses œuvres. Dans Les promesses du monde, il vous propose une installation dominée par une roue de bicyclette qui s'inspire du travail de Marcel Duchamp. Le gentil garçon, Les promesses du monde, jusqu'au 3 mai à la Cité des sciences et de l'industrie, Porte de la Villette.
73 artistes urbains s'exposent dans un centre d'art qui ne coule pas.
Oui, le centre d'art urbain Fluctuart, ce lieu culturel sur une péniche, est composé d'une salle d'expo, d'un rooftop et du pont principal. Sur les murs de la salle d'expo, 73 œuvres originales composent l'expo « Dans les artères coule la vie », avec comme point commun le plan du métro de Paris en fond. Le but, confronter l'art urbain et le métro parisien autrement que sur les rames ou dans les couloirs des transports souterrains parisiens. « Dans ces artères coule la vie » est à voir jusqu'au 22 avril.
Toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures.
Le défi impossible d'Hector Obalk en ce moment à Paris dans le 10e au Théâtre Libre. Si impossible qu'il vous propose plusieurs parcours A, B, D, J ou encore M qui correspondent à classique, fantasy, moderne, J pour Jésus, mais aussi Bosch ou Rembrandt. Pourquoi y aller ? Tout simplement un stand-up en images et en musique avec des musiciens. Tous vos sens seront en éveil.
Sur arte.tv, 1 heure avec Philippe Catherine.
Oui, aux Eurocaennes de Belfort avec un orchestre symphonique. L'artiste aux multiples facettes y a joué à l'été 2025 et il est disponible sur arte.tv jusqu'au 5 juillet. Au programme, 1 heure de concert, 15 titres et un Philippe Catherine très, très en forme. Bon concert.
D.P. Cooper, Chet Faker et Charlie XCX nous proposent de nouveaux opus en musique.
Oui, Charlie XCX avec Wuthering Heights, D.P. Cooper avec Just a New Folk, enfin Chet Faker avec A Love for Strangers. 3 albums, pas encore disponibles à cette heure. Mais que je vous recommande chaudement vu les protagonistes des albums.
Enfin, en jeu vidéo, un remake débarque sur quasiment toutes les consoles.
Yakuza Kiwami 3 et Dark Tides, le remake de Yakuza 3 sorti en 2010. Je cite jeuxvideo.com. Dans ce 3e volet, Kiryu Kazuma va vivre une aventure sur l'île d'Okinawa où il s'occupe d'un orphelinat avec sa fille adoptive. Parmi les nouveautés, le titre propose un nouveau style de combat pour Kiryu et surtout une aventure inédite à part où l'on joue Yoshitaka Mine, antagoniste de l'aventure. Et Yakuza, j'avais perdu ma feuille, Yakuza Kiwami 3 et Dark Tides par le studio Ryoga Kotoku Studio Dispo. J'y arrivais pas, ça me stressait ce moment. Dispo sur PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 et PS4. Voilà.
Tu peux répéter le nom du studio, s'il te
plaît ? J'avais posé la même question.
Ryoga Kotoku.
C'est bon, je l'ai.
Merci, Violette.
Architecture,
sculpture, musique, c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Oh là, qu'est-ce qu'on rigole ici. Hugo, tu nous parles de Mio Memories in Orbit ce mois-ci dans les jeux vidéo.
Oui, et une information qu'il me faut rajouter, c'est que Mio, eh bien, c'est un jeu français. Le studio derrière, c'est 12 dixièmes, c'est un petit studio parisien. Et je les ai contactés, et grâce à ça, j'ai eu accès au dossier presse, avec notamment des morceaux de la BO du jeu. Écoutez ça. C'est une musique de combat. Vous voyez, l'ambiance est un peu chill. Et j'ai dit que j'avais eu accès au dossier presse, mais j'ai pas que demandé ça. J'ai demandé aussi une carte clé de jeu, et je suis désolé Fabrice, mais on n'y est pas encore. On n'a pas encore suffisamment de fame pour avoir des trucs gratuits. Du coup, j'ai décidé d'être d'une extrême mauvaise foi parce que et de détester le jeu, mais comme je l'aime bien, et ben je vais
Hugo.
Quoi ?
Hugo.
Quoi ?
Hugo.
Quoi ?
Non ?
D'accord. Bon. Bah, si vous me le permettez, du coup, on va plonger ensemble dans l'univers de Mio. Imaginez, vous vous réveillez et tout n'est plus que douleur. Votre maison, votre vaisseau a subi de lourds dégâts. Et les corps gisants d'autres robots sont encore étendus dans les décombres des villes et des jardins qui autrefois étaient resplendissants. C'est dans un silence de mort et parmi le peu de robots encore vivants que vous explorez ce vaisseau. Mais la plupart des vaisseaux vivants sont devenus hostiles. Et pire encore, votre vaisseau subit encore des dégâts, des spasmes. Le temps vous est compté. La tempête n'est pas passée. Vous êtes toujours en danger. Si vous ne faites rien, c'est l'entièreté du vaisseau qui risque d'y passer. Vous voilà donc largué dans un labyrinthe de ruines, de végétation, à la recherche des voies, les clés de votre survie et de la réussite de votre mission. Mais hâtez-vous, les spasmes sont de plus en plus courants. Votre cœur pourrait bien vous lâcher avant la fin du voyage.
Et le voyage, il t'a convaincu ?
Indubitablement ! Le jeu est beau. On aime se perdre dans les environnements, sauter de plateforme en plateforme, jusqu'à atteindre une immense salle où perce la lumière, par exemple. On regretterait presque que le jeu ne soit pas en 3D, tellement ça donne envie de tout explorer. Et bien sûr, cela est sublimé par le gameplay, qui rend cette exploration fluide et fun, avec de très bonnes idées. On débloque la possibilité de marcher au plafond et au mur, qu'on appelle la marche araignée, qui est vraiment un bon atout pour le jeu, pour moi. Et comment ne pas vous parler des musiques dont je vous gratifie les oreilles depuis le début de ma chronique, qui permettent une immersion totale dans l'univers du jeu, alternant entre des morceaux plus électro, comme celui-là, ou plus calmes, que vous avez pu entendre avant.
Il a vraiment l'air excellent, là, comme ça, franchement, belle description, mais tu lui as pas trouvé un petit défaut ?
Ah, malheureusement, si. Mio ne parvient malheureusement pas à faire un sans faute. La faute, en fait, à un système de combat qui est un peu en dessous du reste. Parce que Mio est un jeu exigeant. Définitivement pas pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Le problème, c'est que son système de combat, là où l'exploration est fluide, lui est un peu trop rigide. On aurait aimé une possibilité d'accélérer son personnage, de faire un dash dans une direction ou une esquive un petit peu meilleure que celle actuellement proposée par le jeu. La lenteur de notre personnage comparée au combat, alors qu'il est pourtant agile dans les plateformes, rend les combats, bien que fun, frustrants. Pour moi, c'est ce qui empêche Mio de passer de très bons jeux à un jeu légendaire. Mais avec toutes les bonnes idées dont il est truffé, avec sa réflexion autour de l'abandon ou de est-ce qu'il faut continuer à se battre même si le futur est incertain, je vous conseille quand même de suivre avec intérêt les futurs projets du studio 12/10e et si vous avez l'occasion, de lancer une partie de Mio.
Merci Hugo. Ça dit quoi autour de la table, Hortense ?
Bah, moi je trouve que, enfin, je sais pas si c'est juste la chronique, mais j'ai l'impression que le jeu est assez immersif, donc ça m'intéresse. Moi qui suis pas une grande joueuse de jeux vidéo, je pourrais être tentée.
Vladimir.
Bah ouais, le jeu a l'air absolument incroyable, la musique a l'air absolument banger, et ça fait penser un peu aux studios français un peu indépendants qui ont un peu défrayé le monde du jeu vidéo en ce moment avec Expedition 33 et tout, et notamment les compositrices et les compositeurs qui font un travail incroyable. Donc,
c'était qui déjà, c'était qui le studio ?
L'Orchestre Curieux.
Avec Lorient Testard en compositeur et Alice Duport-Percy en chanteuse, artiste oh, wow. Lyrique.
Trop violette.
Comme vous pouvez vous en douter au vu de ma prononciation, je ne suis pas une férue des jeux vidéo. Cependant, ouais, la musique m'a convaincue. Vraiment, ça a l'air trop chouette. Et je ne sais pas, comment tu l'as décrit, ça a l'air vraiment aussi beau et immersif. Donc, pourquoi pas passer un regard derrière une épaule de quelqu'un qui joue, peut-être pas moi jouer, mais voilà.
Diane.
Mais c'est marrant, tu disais regarder quelqu'un jouer. Moi, c'est marrant parce qu'en faisant la description, je dis c'est un jeu qui plairait bien à Gauthier, donc qui est à Radio Campus, qui fait des chroniques à la matinale et dans le monde diplomatique. et qui a une chaîne Twitch où de temps en temps il joue, et il joue notamment à Yakuza, donc ça m'a fait rire quand t'as bafouillé, on va dire. Mais je pense que c'est un jeu que j'aimerais bien le voir jouer, parce que je pense que c'est un jeu qui lui plairait et qui est immersif, et même musicalement c'est hyper intéressant, donc ouais, intéressant.
C'est vrai que la partie exploration m'a intéressé, un peu moins combat, parce que pour le coup tu l'as un peu moins bien vendu, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment immersif et ça a l'air très intéressant.
En fait, c'est très fort parce qu'on se perd dans les dédales et comme je dis, il y a des spasmes qui secouent et qui font en fait perdre. Il y a des robots qui perdent la vie. Et du coup, tu te promènes et après avoir subi un spam, tu vois que des robots qui ont perdu la vie. Et tout. C'est assez vraiment.
Il y a de la vie dans de la vie, quoi.
Ouais. Il y a des robots vivants puis après ils sont plus vivants.
D'ailleurs, est-ce que c'est pas une métaphore de la vie en soi?
Métaphore de l'échec.
Ouais, mais pour le coup, ton robot en fait, il reste là parce qu'il se décompose pas. Enfin, oui. Il se décompose avec.
Il fait en sorte que de lui lutter pour que les choses un jour puissent être meilleures et éviter la fin annoncée.
C'est ça. Merci Hugo, New Memories in Orbit. Oui, dis-moi.
Je me permets juste de rajouter que le jeu a fait beaucoup de prix dans la presse et il y a notamment un article du Figaro qui est extrêmement drôle à lire parce que le mec, on sent qu'il a aimé le jeu, mais comme, attention, il y a un robot non binaire, il se force à hate le jeu juste pour ça. Vraiment, l'article est légendaire.
Ça se passe de commentaires. New Memories in Orbit, disponible sur PS5, Switch, Switch 2 et PC.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
L'événement BD tricolore annulé, un véritable séisme. Dis-nous en plus, Vladimir.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Alors oui, en effet, aujourd'hui je vais vous parler de bande dessinée, mais pas d'une BD sortie récemment que j'ai dévorée, mais plutôt d'une absence, d'un silence assourdissant dans le monde de la bande dessinée en ce début d'année, l'annulation du festival d'Angoulême. Imaginez un peu, l'annulation d'Angoulême, c'est comme si le cinéma perdait son festival de Cannes, ou le théâtre, le festival d'Avignon, ou la communauté trans, le festival des trans musicales, si vous avez la rêve. Petite blague. C'est un séisme dans le monde du 9e art, plus sérieusement, et c'est d'après moi une aventure assez incroyable et plutôt une bonne nouvelle. Alors on va essayer de comprendre et de décortiquer tout ça ensemble. Depuis 1974, le festival d'Angoulême a participé à populariser la BD et surtout à lui donner une légitimité comme sous-culture. C'est devenu un rassemblement incontournable pour les créateurs et les créatrices, les éditeurs et le public. Sauf que voilà, depuis une dizaine d'années, ce paradis du 9e art revêtait de plus en plus des traits d'un enfer. Déjà pour le public, les tarifs ont augmenté de 30% en 10 ans et il faut débourser une soixantaine d'euros environ pour faire la queue dans le froid et se faire dédicacer des albums dans des tentes surchauffées, pas très agréable. Pour les auteurs et les autrices, c'est des journées entières à enchaîner les séances de dédicaces sans être payées par le festival. Et enfin, du côté de l'organisation et des pouvoirs publics, une série d'erreurs qui vont de la négligence au proprement scandaleux et en cause, le prestataire qui organise le festival depuis 2007, la société 9e Art Plus. Ils ont été accusés de nouer des partenariats commerciaux douteux et de transformer le festival en une opération jugée trop mercantile. Et pire encore, durant l'édition 2024, la responsable de communication de l'entreprise porte plainte pour un viol en accusant un prestataire. La réaction de l'entreprise, 9e Art Plus la licencie pour faute grave. Et ce n'est qu'un exemple parmi une litanie de problèmes qui existent depuis longtemps.
L'époque. Et comment a réagi le monde de la BD face à tous ces problèmes ?
Eh bien, c'est la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase et on a assisté sans doute à la plus grande mobilisation jamais vue dans le monde de la bande dessinée. Et en fer de lance du mouvement, des femmes. Autrices, éditrices et libraires, elles lancent en quelques mois un boycott massif du festival, rapidement suivi par les quasi-intégralité de la profession. Tout le monde quitte le navire et le festival est contraint d'annuler l'édition de 2026. Pour une profession aussi structurellement désunie, c'est du jamais vu. Le manifeste des 285, publié par les autrices pour dénoncer les dérives du festival, le résume en cette phrase « Non, nous ne sommes pas des silhouettes qui signent des dédicaces derrière des paillettes sponsorisées ». Et cet épisode aura permis aussi de mettre en lumière la réalité économique précaire pour les auteurs et les autrices de BD. Il faut comprendre que les artistes ne sont pas rémunérés par un salaire, mais par une propriété particulière, les droits d'auteur. Par exemple, quand un auteur signe un contrat avec un éditeur, il perçoit une avance, en moyenne 1500 euros pour 200 pages, c'est vraiment pas grand-chose, et avance qui doit être remboursée avec les premières ventes d'albums. Et donc il y a 10 ans, un rapport montrait déjà les conclusions catastrophiques et accablantes sur la précarité du milieu, mais il avait été enterré par l'État.
Super. Mais du coup, pourquoi c'est une bonne nouvelle tout ce que tu nous racontes?
Et bah déjà parce que avec l'annulation du festival d'Angoulême, des petits festivals plus respectueux des artistes ont pu être mis en valeur parce qu'avant ils étaient totalement invisibilisés, comme ceux de Saint-Malo, d'Amiens, de Blois ou encore de Lyon. Le off du festival d'Angoulême s'est aussi développé avec des initiatives locales moins mercantiles et plus à échelle humaine. Et ensuite parce que cette mobilisation sans précédent a permis de relancer les discussions sur la situation des artistes et sur leur précarité et aussi leur engagement pour faire du 9e art un espace plus inclusif, plus innovant et moins précaire. Et enfin, ça a permis de rappeler qu'un festival n'existe que grâce aux artistes et à leur engagement. Donc du coup, ça donne vraiment matière à réfléchir pour tous les festivals artistiques. Et ce mouvement a déjà porté ses fruits. La direction a annoncé une refondation de l'organisation du festival en y intégrant davantage les artistes et en arrêtant sa collaboration avec 9e Art Plus. Donc c'est bien un mouvement féminin et féministe qui a fait bouger les lignes d'un art tout entier. Mais bien sûr, cela a un prix. Le festival d'Angoulême assurait la visibilité et les ventes de bon nombre d'artistes et d'éditeurs chaque année. Donc, si vous vous sentez solidaire du mouvement, pensez à lire des BD, à offrir des BD et à faire vivre les artistes et les libraires indépendants.
Amen. Qui pense quoi, Diane?
Ah, mais c'est pas une très bonne idée de me donner la parole maintenant parce que je vais la monopoliser, Fabrice.
Tu as 30 secondes.
Je suis totalement d'accord. Hein. Moi, je fais partie d'un festival de bande dessinée qui est à Tours, qui s'appelle la Tour de Bulle, qui existe depuis plus de 21 ans. Et qui est gratuit et qui vit grâce aux subventions de l'État et à l'argent qui est des bénéfices des ventes de goodies, de t-shirts, des choses comme ça, et qui paye ses artistes aussi. Ce serait quand même le
c'est
le
idéal, ouais.
Ouais, bah c'est ce que disait base. Ce que disait Angoulême, c'est que pendant un moment, en gros, les plantes qui étaient utilisées pour le festival d'Angoulême étaient louées, donc étaient payées, mais les artistes non. Ça veut dire qu'en termes de hiérarchie, il valait moins qu'une plante, quoi. Donc voilà.
Super.
Si vous avez envie de lancer même un club de lecture dans votre quartier, dans votre bibliothèque, bah faites-le parce que c'est ça aussi qui permet des rencontres, de faire vivre les libraires indépendants, les librairies indépendantes, les auteurs indépendants, enfin tout ce que vous voulez. Mais oui, payer les artistes, c'est le minimum des choses.
Hortense.
Bah ouais, moi évidemment, je suis d'accord et je trouve que c'est vraiment, enfin c'est tellement cool que les choses puissent changer vraiment. Enfin, ça donne une petite lueur d'espoir quand même. Et puis parallèlement, moi, ça m'évoque aussi tout le rapport de ces événements un peu spectaculaires qui sont aussi, qui participent aussi même à la gentrification de ville. En fait, même Angoulême. Enfin, si tu veux aller au festival d'Angoulême, le problème, il y a les places, mais il y a aussi, ça, prendre un week-end là-bas, Airbnb, etc. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a aussi tout un système, même territorial, qui s'organise autour de gros événements comme ça. Qui moralement, je le trouve pas fou. Donc voilà, genre, je trouve qu'il y a aussi ce qui va avec. Donc c'est très intéressant d'avoir cette chronique.
Go.
Moi je suis pas surpris par l'annonce de l'annulation parce que le FIBD je suivais
FIBD.
Un peu le FIBD, le Festival International de la BD c'est un truc où j'allais quand j'étais petit puisque je viens de pas très très loin d'Angoulême.
Je savais que t'allais dire ça.
Et oui. Donc en plus moi j'ai vécu tout le passage de l'arrivée du manga en fait, le passage de il y a une petite tente et maintenant c'était à la fin c'était énorme. Et donc en vrai, je suis pas surpris et en même temps, je suis content qu'il y ait ce girl code, même si ça fait un petit pincement au cœur de l'annulation parce que j'y étais attaché. Mais je suis content qu'il y ait eu et ça a permis quand même l'émergence de plein d'autres petits festivals indépendants. Même à Angoulême, je crois qu'il y en a un qui s'organise, qui s'est organisé, et afin de permettre de changer le milieu parce que c'était plus possible.
Ouais, carrément. Milieu qui a énormément évolué depuis 10-15 ans. On est passé, je crois, de 300 publications par an au début des années 2000 à 6000. Donc, du coup, c'est un milieu qui a tendance à énormément évoluer avec une place des femmes qui prend de plus en plus de place.
Oui, voilà, surtout que dans la BD traditionnelle, c'est quand même très masculiniste. Hein, quand même.
Oui, bien sûr.
Mais derrière, il y a des nouvelles formes avec le webtoon notamment, où en fait là, c'est écrit par des femmes, pour des femmes principalement, ce qui permet l'émergence en fait, d'un nouveau public quand même.
Ouais. Violette ?
Mais moi, au contraire de toi, Hugo, j'étais plutôt surprise quand ils l'ont annulé. Je trouvais ça super courageux. Parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de tensions, on en entendait parler, mais il n'y avait pas au tout début, on ne parlait pas trop de l'annulation encore. Et quand ça a été annulé, moi, je me suis dit, c'est justement ce genre d'événement dont sont dépendants énormément d'artistes. Et donc, est-ce que l'annuler, enfin, il y a plein de questions aussi. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'ils y gagnent, qu'est-ce qu'ils y perdent? Et donc, c'est vrai que quand j'avais entendu que c'était annulé, je me suis dit, ok, c'est courageux, ils sont allés au bout. Ils se sont dit que ce qu'ils défendaient était plus fort aussi que leur visibilité à ce moment-là, que ce qu'ils allaient vendre. Donc bravo à elles surtout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment fort, donc c'est chouette.
Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Nous continuons avec l'architecture, la sculpture et les arts visuels. À tout de suite.